Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie, bonjour.
Pour commencer cette semaine d'enjeux internationaux, direction les États-Unis et analyse du programme économique de Donald Trump.
Voilà, avec notre invité Joss Roussel, professeur à Paris School of Business. Quand on y regarde un peu plus près, on voit que le programme économique de Donald Trump n'est pas aussi orthodoxe qu'il y paraît. Il est vrai que tout candidat, évidemment, tient des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Alors la question se pose de savoir si le programme économique se coule dans les principes du Parti républicain, c'est-à-dire le libre-échange comme socle dans les relations internationales, le moins d'État, le moins d'impôts, le marché pour le marché qui est censé réguler les excès, voire les turpitudes du monde financier. Alors on constate que Donald Trump, qui s'est imposé au Parti républicain plutôt que l'inverse, ne respecte pas toutes les tables de la loi économique conservatrice, prévoyant même des aides étatiques aux infrastructures, une réduction des dépenses de défense, la renégociation du traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique, c'est-à-dire l'ALENA. Alors donc quelles sont ses priorités? Et peut-être d'abord on va rappeler le contexte avec Joss Roussel.
Alors, le contexte de l'économie américaine en ce moment est relativement dégradé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On a une croissance qui est relativement molle. Les trois derniers trimestres ont à peine dépassé le 1% en rythme annuel, donc une forte décélération de la croissance. C'est d'ailleurs la reprise économique la plus timorée, la plus faible depuis la grande dépression des années 30. Donc, c'est un cycle économique qui est finalement assez médiocre. C'est vrai que le taux de chômage a fortement baissé, Mais il ne faut pas s'y tromper, ça s'explique surtout par finalement une très très faible participation à la force de travail, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 93 millions d'Américains en âge de travailler qui ne travaillent pas, qui sont donc retirés des statistiques du chômage, ce qui fait que le taux de chômage, si on devait intégrer cette population à la population active, ce serait beaucoup plus important.
Oui, ça paraît énorme, 93 millions, parce qu'au fond, il y a 315 millions,
absolument,
donc environ d'Américains. On estime généralement que la population active, ça doit être un peu plus de la moitié ou
voilà,
quelque chose comme ça.
Donc c'est une part très, très, très importante. Et en fait, on a le taux de participation à la force de travail, c'est l'expression qu'utilisent les économistes, qui est le plus faible depuis les années 70. Ce qui explique finalement ce malaise économique ressenti aux États-Unis, un taux de chômage qui est certes très bas, mais il s'explique surtout par une très faible participation à la force de travail. Si on devait réintégrer ces Américains dans la force de travail pour calculer le taux de chômage, on aurait un taux beaucoup plus important. Et par ailleurs, beaucoup des emplois qui ont été créés, environ deux tiers des emplois qui ont été créés sur cette reprise économique, sont des emplois à temps partiel. Il y a eu une forte accélération du recours au temps partiel. Et donc l'emploi à temps plein, finalement, est devenu une denrée assez rare dans ce cycle économique, notamment pour les personnes peu qualifiées.
Oui, donc ce qu'on appellera ici des CDD, finalement.
Absolument.
Alors, Trump, que dit-il? Que propose-t-il? Alors, évidemment, ce sont des promesses de candidats, et je sais que vous allez vous appuyer sur quatre domaines clés.
Voilà, c'est-à-dire que la vision économique de Donald Trump repose effectivement sur quatre piliers. Une réforme fiscale de grande ampleur, une déréglementation extrêmement agressive, l'indépendance énergétique, c'est un point extrêmement important pour lui, et je pense aussi également la renégociation de l'ensemble des accords de libre-échange qui ont été signé avec beaucoup de partenaires étrangers. Donc finalement, une démondialisation, si on peut s'exprimer ainsi, qui est assumée par Donald Trump. Son ambition, c'est justement d'entraîner un renouveau économique américain, de remettre les États-Unis sur un sentier de croissance beaucoup plus élevé, 4% par an, de retrouver finalement la croissance des années Reagan, des années 80.
D'ailleurs, 80.
Il y a une forme de similitude dans la manière dont il présente le renouveau économique américain et l'ambition qu'il a de passer une forme d'optimisme pour dire que finalement cette situation économique extrêmement morose et dégradée, elle peut s'améliorer pourvu que l'on prenne les bonnes mesures.
Alors on va prendre peut-être dans l'ordre tout simplement les quatre points sur lesquels il s'appuie, les quatre piliers. Donc la réforme fiscale.
Alors la réforme fiscale, effectivement, c'est pour ce qui concerne les ménages, une simplification de la fiscalité, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 7 taux d'imposition sur le revenu des ménages, et donc il propose de ramener ces taux d'imposition à 3, 12, 25 et 35%. Donc on a finalement une réforme qui est classique qu'on retrouve classiquement, je dirais, chez les Républicains, une simplification et une baisse de la fiscalité. Mais en ce qui concerne le revenu des ménages, par exemple pour les plus hauts revenus, c'est pas une baisse de la fiscalité extrêmement significative, puisque le taux maximal aujourd'hui est de 39,6%, donc c'est une baisse relativement mineure. Mais c'est surtout la simplification qui est importante, simplifier et limiter tout ce qui est exemption, réduction fiscale, qu'utilisent beaucoup les groupes d'intérêt, les lobbies aux États-Unis pour baisser leur fiscalité.
Alors justement pour les entreprises.
Alors pour les entreprises en revanche, là c'est beaucoup plus agressif, beaucoup plus, je dirais, ambitieux, puisque la fiscalité cette fois-ci, il promet de la baisser de 35% aujourd'hui à 15%. Donc une baisse extrêmement significative de la fiscalité qui pèse sur les entreprises. 35%, c'est un des taux effectivement les plus élevés au monde, hein, par rapport par exemple à ce qui se pratique en Europe. Bon, à peu près équivalent à ce qu'on a en France par exemple. Et donc d'amener la fiscalité des entreprises à 15%, là ça rendrait la fiscalité sur les entreprises extrêmement attractive vis-à-vis du reste du monde.
Alors le deuxième pilier, c'est la déréglementation. Mais alors ça, c'est assez classique pour des républiques.
Voilà, effectivement. C'est sans doute le point qui est le plus traditionnel dans la plateforme, je dirais, électorale du Parti républicain. Cette méfiance, cette hostilité forte vis-à-vis de la réglementation, c'est l'idée selon laquelle que la réglementation économique, la réglementation qui porte donc sur les activités économiques diverses, va freiner la création d'emplois, va freiner l'esprit d'entreprise et donc va ralentir la croissance. Il y a cette idée que réglementer, par exemple, le secteur de la santé, réglementer le secteur de l'énergie, etc., le secteur de la construction, eh bien tout ça, ce sont des freins qui vont ralentir le rythme de croissance, qui vont ralentir la création d'emplois. Et donc, c'est vrai qu'il est en faveur d'une déréglementation assumée, d'une déréglementation extrêmement forte, qui se traduirait par un moratoire sur toute nouvelle réglementation, c'est-à-dire on ne produit pas de nouvelles réglementations. Et son ambition, c'est de déréglementer, c'est-à-dire de retirer certaines déréglementations, qui, notamment celles qui portent sur l'énergie.
Alors justement, l'énergie, on le sait, c'est le premier exportateur mondial de pétrole. Maintenant, ça va être, selon l'Agence internationale de l'énergie, le premier exportateur mondial de pétrole à terme, d'ici, selon cette agence, d'ici la fin des années 2020. Donc l'énergie est évidemment l'un des nerfs de la guerre.
Absolument, et Donald Trump va, je dirais, au-delà, puisqu'il souhaite l'indépendance énergétique des États-Unis, et il souhaite justement faire en sorte que toutes les sources d'énergie fossiles notamment, puissent être exploités le plus largement possible sur le territoire américain.
Alors vous soulignez d'ailleurs dans vos travaux, y compris le charbon.
Absolument.
Qui est évidemment très polluant.
C'est une ressource énergétique fossile assez polluante. Et alors il y a un enjeu électoral aussi, parce qu'effectivement, on a des mines de charbon dans le Tennessee par exemple. Il y a donc des circonscriptions, des États qui pourraient basculer, je dirais, en faveur de Trump, parce que justement il promet de relancer l'exploitation du charbon et de relancer également la construction de centrales électriques qui utilisent le charbon comme combustible pour produire l'électricité.
Un peu l'exemple d'ailleurs en ce moment actuel que suit l'Allemagne, bien
Absolument.
Sûr. Alors il y a quelque chose de très important, c'est évidemment le libre-échange, qui est le socle des échanges internationaux selon la droite classique occidentale, on va dire, pas seulement américaine. Libre-échange, donc le moins d'intégration économique régionale, là évidemment l'abaissement la disparition des barrières douanières, les standards, les normes harmonisées, ainsi de suite. Et Mme Clinton, par exemple, pour la négociation sur le traité de libre-échange avec l'Europe, était pour, maintenant elle est contre, et M. Trump, lui, est contre, en tout cas sous cette manière.
Absolument, et c'est sans doute un point de divergence assez fort avec le Parti républicain traditionnel, parce qu'effectivement le Parti républicain traditionnel a été très en faveur des accords de libre-échange depuis ces dernières décennies. Au même titre d'ailleurs que le Parti démocrate. C'est vrai que c'était un consensus finalement entre les deux partis que d'être extrêmement en faveur de la multiplication des accords de libre-échange. Et là, c'est vrai que c'est une vision totalement opposée. Dans sa campagne et dans son programme économique, il a été extrêmement critique, extrêmement virulent vis-à-vis de ces accords de libre-échange qu'il considère comme une catastrophe pour les États-Unis. Il met en avant ce chiffre. Les États-Unis, c'est aujourd'hui un déficit commercial de 800 milliards de dollars par an, dont 500 milliards avec la Chine, avec ce seul partenaire économique. Donc il considère ça comme une catastrophe pour les États-Unis. C'est l'explosion de ce déficit commercial qui a été donc accéléré par ces accords de libre-échange. C'est déroulé en parallèle avec une désindustrialisation assez importante aux États-Unis. Beaucoup d'emplois ont été donc délocalisés ou au Mexique ou en Asie. Et il estime que finalement ces accords de libre-échange, c'est en quelque sorte des chevaux de Troie pour procéder à ces délocalisations massives.
Joss Roussel, professeur à Paris School of Business, donc à propos du programme économique Donald Trump, on parlera évidemment du programme économique de Madame Clinton. FranceCulture.fr.